Sauf Paris,
de Paris onde os termômetros
se rendent.
Accent du monde. Philippe Lecaplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Votre radio, dans toute sa richesse et toute sa diversité, nous allons le voir une fois de plus ce soir. Ce soir, justement, Lydia Anjos de la rédaction Lusophone pour faire un point sur la Guinée-Bissau où il y a eu, voilà quelques jours, une tentative de coup d'État. Pour la rédaction russe, Elsa Vidal.
Добрый вечер.
À propos de la présence toujours plus importante de la Russie en Afrique et particulièrement au Mali. Et puis Hermine Roumilac de la rédaction chinoise.
Nihao.
Pour nous parler de plusieurs femmes dont le destin enflamme actuellement les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, l'actualité la plus chaude, elle concerne la tension autour de l'Ukraine et de l'imminence ou non d'une guerre. Comme dernière information, à l'heure où nous parlons, il y a le dirigeant de la République séparatiste pro-russe de Donetsk en guerre contre l'Ukraine qui annonce l'évacuation de civils vers la Russie voisine et il accuse Kiev de préparer une invasion après de nombreuses heures au cours de ces deux derniers jours. Mais à ce propos, les États-Unis parlent de provocation conçue par les Russes en vue de justifier une attaque de l'Ukraine. En ce moment, il y a aussi la diplomatie qui s'active, le mystère qui subsiste concernant la réalité d'un retrait partiel des troupes russes. Alors, Lygia, si Moscou donne aujourd'hui des signes d'apaisement dans la crise, ce risque de conflit n'a pas disparu pour autant. Le maître mot des diplomates, pour l'instant, c'est prudence, prudence, prudence.
Plus que jamais, Philippe. Oui, là, Vladimir Poutine s'impose comme le maître des horloges en annonçant à la surprise générale cette semaine le retrait partiel de certaines troupes russes aux frontières de l'Ukraine. Moscou a continué de dicter le tempo diplomatique dans la crise qu'il impose à son voisin, l'Ukraine. Et au reste du monde, depuis, il ne se prive pas de moquer le ton alarmiste adapté par Washington et Londres ces derniers jours. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden affirmait ces jours-ci que l'invasion de l'Ukraine pourrait intervenir à tout moment et Washington se préparait au conflit. Les États-Unis avaient décidé alors d'envoyer 3000 soldats supplémentaires en Pologne pour rassurer les alliés de l'OTAN.
Alors justement, Elsa Vidal, est-ce qu'on pense en Russie qu'il y aura une guerre ?
Oui, Philippe, tout le monde pense à la guerre en Russie, mais tout le monde espère surtout qu'il n'y en aura pas tellement les populations sont mêlées de part et d'autre. Surtout, il faut souligner qu'il est impossible à qui que ce soit à l'heure actuelle de répondre à cette question, car les décisions de cette nature sont prises en Russie par un cercle extrêmement restreint d'individus. Le secret est la règle et nous, les observateurs, nous sommes comme les kremlinologues de la grande époque, l'époque soviétique, et nous n'avons pas d'informations qui proviennent de l'intérieur des institutions. D'ailleurs, un bon exemple de cette absence, c'est l'attention accordée à la longueur de la table qui a séparé les deux présidents lorsque Emmanuel Macron a rendu visite à Vladimir Poutine le 7 février.
Pas moins de 5 mètres, je crois, la longueur
oui,
de la table.
Oui, 5 ou 6. C'est là la question.
Et la diplomatie, c'est également beaucoup de coups de téléphone entre les chancelleries et même les présidences. Cela pour tenter de relancer le dialogue, Lygia.
Oui, un premier entretien a eu lieu entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Ce dernier a estimé que les déclarations américaines sur une invasion imminente de l'Ukraine étaient une provocation. C'est suite à cela qu'Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine pour un échange de plus d'une heure et demie. Le président français affirme à la fin de cet appel qu'un dialogue sincère n'est pas compatible avec une escalade militaire quelques jours après une réunion en tête-à-tête, comme vous disiez, à Moscou, qui n'a rien réglé. C'est alors le tour de Joe Biden de s'entretenir par téléphone avec Vladimir Poutine. L'entretien, qui dure un peu plus d'une heure, n'apporte pas non plus de changement fondamental. Selon un responsable américain, Joe Biden avertit son homologue russe de répercussions sévères et rapides à venir, tandis que le Kremlin évoque une hystérie américaine à son apogée.
Le Kremlin, c'est très joli ça, le Kremlin. N'est-ce pas Elsa Vidal ? Que recherchent justement les dirigeants du Kremlin ?
Ah, Philippe, la réponse à cette question s'analyse à plusieurs niveaux, sans information de l'intérieur, encore une fois, et notamment dans un horizon temporel beaucoup plus vaste que cette seule crise actuelle. Il y a un niveau local, on le connaît tous, c'est la crise au Donbass. Il y a en second lieu la question de l'architecture de sécurité en Europe, puisque la Russie se dit menacée par les volontés d'expansion de l'OTAN dans une zone, celle de l'étranger proche, un terme qu'on ne connaît pas toujours à l'étranger, mais qui désigne la zone où la Russie considère avoir une influence influence légitime. Et enfin, au niveau global, cette crise confirme la volonté et la capacité du Kremlin à revenir au centre de l'attention des États-Unis, le seul État qui compte vraiment pour les dirigeants russes. Ainsi, Moscou s'assure de l'oreille attentive de Washington, alors que la politique étrangère américaine serait orientée vers la menace chinoise.
Justement, on en parlera de la Chine dans quelques instants. Avant cela, Ligia Angeaux, par précaution, les pays occidentaux prennent-ils des mesures en vue d'un possible conflit, à commencer par avertir leurs ressortissants?
Oui, Paris a déconseillé, Philippe, aux Français de voyager en Ukraine. Le gouvernement français ne recommande pas à ses ressortissants de quitter le sol ukrainien, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à Belgique et au Portugal, comme nous indiquait le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos-Silva, interviewé par Miguel Martins, qui déconseille les voyages non essentiels en Ukraine.
Estamos em contacto, ainda ontem pude falar com o meu colega e amigo, o ministro dos Estrangeiros francês, estamos absolutamente concertados.
Que dit le ministre des Affaires étrangères portugais?
Augusto Santos Silva commence par rappeler la rencontre informelle qu'il a eue à Paris avec Jean-Yves Le Drian, son homologue français, et explique que le Portugal adoptera une réponse concernée avec la France concernant la crise de l'Europe de l'Est. Il rappelle que tout le monde s'est absolument concerté et aligné pour trouver une solution politique au problème de sécurité qui connaît aujourd'hui l'Europe de l'Est, en évitant que les choses ne dégénèrent dans ce qui pourrait être une situation militaire inacceptable.
Et puis il affirme aussi que le Portugal attend que la Russie respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine.
Exactement, et que l'Europe est disponible pour discuter avec la Russie de tout problème de sécurité, étant donné qu'il existe une organisation, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération Européenne, qui a précisément été créée pour cela. Il souligne aussi que les questions de sécurité de l'Europe sont traitées de façon coopérative et non conflictuelle, et recommande à tous les Portugais alors de qu'ils ne sont pas obligés de se rendre en Ukraine pour des raisons strictement essentielles de ne pas le faire.
L'Ukraine qui célébrait avant-hier la journée de l'Union, c'est une manière de montrer au monde cette unité nationale.
En effet, et sur nos antennes en portugais, on a entendu Demar Duschentos, il est économiste guinéen, il vit à Kiev depuis 10 ans. Il nous parle d'une ville calme où la population ne croit pas à une éventuelle invasion de la Russie.
Não, pelo que eu tenho assistido aqui, pelo menos em Kiev, a população ucraniana não acredita muito que haverá uma invasão da Rússia. Aqui na Ucrânia, não
que é assim. Que você disse?
Demar Duschentos, interviewé par Cristina Soares, nous dit que les Ukrainiens ne croient pas à une invasion de la Russie. Ils n'ont pas cette sensation d'une invasion imminente. Demar Duschentos croit qu'il s'agit d'une stratégie géopolitique et que la Russie veut être en position de négocier avec les pays occidentaux.
Elsa Vidal, je reviens vers vous. Coincé entre la Russie et l'Ukraine, il y a le Donbass. Finalement, est-ce que c'est là que tout se joue? Est-ce qu'une solution à ce conflit est envisageable à court terme?
Elle est envisageable, mais elle est très peu probable. À l'heure actuelle, les Russes et les Ukrainiens analysent totalement différemment le contenu des accords de Minsk, Minsk 2, et on se trouve dans une impasse, à moins que l'un n'accepte de céder sur un point essentiel. Et surtout, depuis 2 heures à peu près, et on assiste à une dégradation véritable au niveau du Donbass et non plus à l'extérieur du territoire ukrainien, de la situation. Cette dégradation, elle s'est manifestée principalement par une augmentation des tirs en direction des républiques autoproclamées, qui a donné lieu au signal de l'évacuation des populations civiles en direction de la Russie par les deux chefs de ces deux territoires. Il y a également le président Poutine qui, depuis 2 jours, parle de génocide. Tout ça est un scénario qui ressemble beaucoup à celui qui a précédé l'entrée en guerre avec la Géorgie en 2008. Et du côté ukrainien, on réplique que pas du tout, que les deux terroristes que sont les Pushilin et Pasechnik répandent des informations mensongères et que l'Ukraine est décidée à s'en tenir à la voie diplomatique.
Et la Chine, dans cette crise, Hermine Rouminac de la rédaction chinoise, au-delà de ces manœuvres des pays qu'on vient de citer, dans cette crise, tous les regards se tournent vers Pékin. Pour plusieurs raisons, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. La Chine, ou l'ombre de la Chine, est plus que jamais présente dans cette crise pour, comme vous dites, plusieurs raisons. Parce que d'abord, la Chine, on sait qu'il organise actuellement les Jeux Olympiques d'hiver et ne souhaite certainement pas qu'une guerre éclate à ce moment. Et parce que les épidémies de Covid-19 ou la controverse sur les droits de l'homme à Xinjiang et les crises en Ukraine ont déjà considérablement réduit la tension mondiale. mondiale portée à ces jeux, ce qui a mis en frein le désir de mettre en valeur le soft power chinois ou le prestige personnel du président chinois Xi Jinping. Donc Pékin souhaite absolument pas que la guerre s'éclate en ce moment ou alors justement avant la fin des jeux.
Ouais, alors les jeux qui se terminent dimanche, hein, donc à la limite c'est l'affaire de deux jours.
C'est donc on attend pour voir. Ensuite, Pékin est désormais l'un des plus proches alliés de la Russie, donc il est possible de deviner les actions de la Russie à la lumière de la réaction de Pékin. Par exemple, est-ce que Pékin va évacuer les ressortissants chinois de l'Ukraine? Ça pourrait donner un signe. Enfin, l'alliance entre la Chine et la Russie inquiète les États-Unis et ses alliés occidentaux parce que selon un rapport, Biden surveille de près la partie chinoise qui pourrait déceler des signes de plan visant à alléger la pression sur la Russie si les États-Unis imposent des sanctions à Moscou. Un général américain a même averti ce mercredi même que la Chine pourrait profiter de la crise ukrainienne pour tenter un geste provocateur en Asie pendant que les puissances occidentales sont occupées à calmer les tensions avec la Russie.
On est sur la géopolitique à plusieurs bandes. Hein. Dans l'immédiat, comment est-ce que Pékin réagit officiellement à cette crise?
Officiellement, on a vu plusieurs déclarations. Par exemple, en pleine crise ukrainienne, juste avant les JO, Poutine est allé à Pékin pour soutenir Xi Jinping face à toutes sortes de boycotts diplomatiques, surtout des pays occidentaux. Et il a obtenu, sans surprise, le soutien de Xi Jinping face aux occidentaux. Dans une déclaration commune, ils se disent opposés ensemble à tout élargissement de l'OTAN. Donc ça fait écho à l'exigence principale de Moscou. Et le ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Yi, a rappelé quand il était au téléphone avec le secrétaire d'État américain, Blinken, que les préoccupations légitimes de la Russie en matière de la sécurité doivent être prises en compte et traitées. Et le président chinois Xi Jinping a téléphoné à M. Macron et il a dit qu'il soutient le cadre des négociations de Normandie et a rappelé aussi à la mise en œuvre des accords de Minsk selon la déclaration de l'Élysée.
Alors, les accords de Normandie, en fait, c'est la réunion de plusieurs pays. Oui. Elsa, dans laquelle la Russie est présente, hein, je crois.
Oui, la Russie est présente et la France et l'Allemagne jouent un rôle leader. L'Ukraine est également présente.
Hermine, Taïwan est souvent mentionné également dans cette crise. Pour quelle raison?
Parce que la question de Taïwan hante la Chine, et bien que ce n'est pas dans la même nature et comme l'Ukraine face à la Russie, mais la Chine considère que Taïwan fait partie d'elle et n'a jamais renoncé à la récupérer par la force. Mais Taïwan joue actuellement une position stratégique extrêmement importante dans le monde entier. Les États-Unis, le Japon, l'Australie et même l'Europe ne veulent pas qu'un conflit éclate dans le détroit de Taïwan. Toutefois, les États-Unis, on sait qu'il a conclu un accord de protection avec Taïwan, mais ils n'ont jamais déclaré clairement s'ils protègent Taïwan par la force en cas d'invasion par éventuellement la Chine. Donc cette situation ramène à la question de savoir si les États-Unis sont justifiés d'envoyer des troupes alors que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Ainsi, la fermeté des États-Unis sur la protection de l'Ukraine et la capacité de Washington et les alliés à riposter en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait également constituer un précédent pour la Chine dans les résolutions de la question de Taïwan. C'est pourquoi certains disent que la crise ukrainienne est un exercice dans la crise de Taïwan aux yeux de Pékin.
Mais est-ce que ces deux situations sont vraiment comparables?
Alors, il y a peut-être en apparence quelques similitudes, mais en réalité, pas tellement selon le géopoliticien M. Wang Jingtao.
Aidez-nous à comprendre son analyse.
Il a dit qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux parce qu'il y a trois obstacles majeurs à l'invasion de Taïwan par la Chine. Premièrement, c'est la situation géographique et la technologie militaire par rapport à l'Ukraine qui est liée par la terre à la Russie. Il y a un détroit de 250 km de large entre Taïwan et la Chine. Donc, pour l'attaquer, il faut vraiment manœuvrer par la voie terrestre et maritime en même temps, donc ce qui est très difficile. Ensuite, l'attaque de Taïwan, de Chine contre Taïwan fera l'objet de sanctions internationales. Donc, ce sera vraiment très difficile pour la Chine de s'en sortir, contrairement à la Russie, qui a ses ressources très riches en ressources naturelles. Troisièmement, il est possible que la Russie établit un gouvernement pro-russe en Ukraine Mais à l'heure actuelle à Taïwan, la grande majorité, voire la quasi-totalité des jeunes Taïwanais refusent l'intégration de l'île à son voisin puissant, et même la Chine réussit à envahir le pays. Elle se heurte à une résistance totale de la part du peuple taïwanais, ce qui rendra la situation vraiment ingérable.
Et pour revenir à la situation en Ukraine en tant que telle, elle évolue d'heure en heure. Ce soir à 21h en temps universel, le président des États-Unis Joe Biden va s'exprimer de nouveau. Son discours interviendra juste après une nouvelle réunion téléphonique de crise avec les dirigeants des pays alliés de Washington. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à l'Afrique. Tout à l'heure, la junte au pouvoir à Bamako a demandé à la France de retirer sans délai ses soldats du Mali. Cela au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. Alors s'agit-il de remplacer les soldats français par des mercenaires russes ? En tout cas, Elsa Vidal, chef de la rédaction russe de RFI, la Russie et le Mali, c'est une vieille histoire.
Oui, c'est une vieille histoire, on l'oublie souvent, mais la Russie au Mali est plutôt de retour, car la coopération entre Bamako et Moscou remonte à l'immédiate après-indépendance, et elle a été assez éblouissante, puisque elle a représenté jusqu'à 42% des échanges avec le Mali. L'Union soviétique a représenté jusqu'à 42% des échanges extérieurs du Mali dans les années 60, et puis elle a contribué à la construction du stade de Bamako, et elle a complètement équipé également la compagnie aérienne nationale Air Mali. Après, bien sûr, la dissolution de l'URSS s'est accompagnée d'un reflux total. Mais aujourd'hui, la coopération a repris, notamment dans le secteur militaire, puisque jusqu'à 80% du matériel militaire malien est d'origine russe. Et notamment, Moscou contribue à la formation de nombreux instructeurs aux hélicoptères qu'elle a livrés récemment et qui sont de type Mi-171. Bien sûr, cette progression s'accompagne aussi d'une rhétorique très habilement anticolonialiste qui vise la France.
Au-delà du Mali, Elsa, est-ce que il y a une influence russe en Afrique ?
Oui, il y a une influence russe, mais elle est vraiment à ses débuts. Les Russes ont tout d'abord repris pied en Afrique en utilisant les contrats militaires et surtout l'arme de l'annulation de la dette. Et puis depuis 2019, on voit une véritable offensive diplomatique qui s'est concrétisée avec le premier sommet Russie-Afrique à Sochi. Et puis depuis, on sait aussi que la Russie s'est fixé l'objectif de doubler ses échanges avec l'Afrique d'ici 2024 et également ses investissements. Mais avec 5 milliards de dollars à l'heure actuelle, elle se positionne bien loin derrière la Chine et ses 130 milliards de dollars d'investissement annuel.
Oui, la Chine, Hermine Roumila, qui est très présente et de plus en plus présente en Afrique.
Oui, très, très, vraiment. D'ailleurs, l'Europe va lancer aussi une sorte de planning, de plan d'investissement en Afrique.
En tout cas, financière et économique.
Oui. Et attention, la France va coopérer avec la Chine dans 6 pays, dans les projets d'infrastructure en Afrique aussi.
Et puis, il y a l'influence militaire. Mmh. Et ça nous amène à reparler de la compagnie Wagner. Officiellement, Wagner n'existe pas. Pas d'enregistrement, pas d'impôt, pas d'organigramme. Alors, que sait-on, Elsa Vidal, sur cette société militaire privée ?
Российское правительство, российское государство ничего не имеет общего с теми компаниями, которые работают в Мали.
Насколько нам известно, c'est le président Vladimir Vladimirovich Poutine qui parle et qui nous rappelle que l'État russe et le gouvernement russe n'ont aucun lien avec la compagnie de sécurité privée Wagner. Et bien sûr, comme dans le Donbass, ce n'est pas l'État russe qui est à la manœuvre et donc aucun lien ne permet de les saisir en flagrant délit de complicité. Mais la question n'est pas du tout là, en réalité, puisque la société appartient à un proche de Vladimir Poutine, qui est même surnommé le cuisinier du Kremlin et qui s'appelle Yevgeny Prigojine, un homme sur lequel il est extrêmement dangereux d'enquêter. Et par sa simple existence, cette compagnie est une campagne de promotion vivante pour l'action russe. Elle ouvre la porte à de nouveaux contrats. Elle a été signalée dans plusieurs États d'Afrique, que ce soit au Soudan ou au Mali, Mali ou en passant même par la Centrafrique, où elle a été épinglée aujourd'hui justement par le secrétaire général de l'ONU pour ses exactions à Bria en janvier dernier qui ont fait pas moins de 17 morts parmi les civils.
Центральная Африка – это страна возможностей. И у каждого есть сейчас возможность вернуться обратно. Пока борт заправляется...
Là encore, qui parle et que dit-il ?
Alors là, nous nous trouvons dans le domaine d'une œuvre de fiction qui est aussi une œuvre de propagande et qui s'appelle Le Touriste, c'est-à-dire Le Bleu, le nouveau venu. Et c'est un instructeur qui parle à un nouveau venu en Centrafrique, un nouveau venu qui est lui-même un mercenaire et qui a la chance de se trouver dans le pays des possibles que représente la Centrafrique. On lui dit aussi incidemment qu'il a le choix encore de partir avant que l'avion en arrière-plan ne décolle. Et effectivement, la Centrafrique est un des étendards de l'action des Wagner et cette campagne renforce l'influence, le soft power russe avec des moyens très intéressants, plutôt important et un résultat vraiment tout à fait regardable qui rend hommage aux combattants russes qui auraient stoppé pour la première fois la progression de bandes armées en 2021, des bandes armées qui, dans ce film, devaient permettre le retour au pouvoir de l'ancien président Boisizé dans un plan ourdi par des conseillers français avec l'aide de mercenaires tchadiens.
Vous parliez d'Evgeny Prigojine, qui est donc le patron de Wagner, le cuisinier du Kremlin, pourquoi ?
Parce qu'initialement, il tient sa fortune de son activité de restaurateur.
D'accord, c'est pas parce qu'il manie le couteau avec des quelques
pour l'instant, l'histoire ne le dit pas.
Elsa Vidal de la rédaction russe de RFI. La Guinée-Bissau a vécu le 1er février une tentative de coup d'État aux causes encore nébuleuses. Alors essayons de faire le point avec vous, Ligia Anjos, de la rédaction en portugais de RFI. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le 1er février, le président Oumar Sissoko Kembalo et les membres du gouvernement se sont barriqués pendant plus de 5 heures dans le palais du gouvernement, tandis que résonnaient des tirs entre les forces loyales du président et les assaillants. Le pays a été figé dans l'attente jusqu'à leur départ. Un jour après la tentative de coup d'État, l'armée de Guinée-Bissau a lancé une vaste opération, y compris au siège du gouvernement, pour retrouver les assaillants. Une tentative de coup d'État qui a fait, je rappelle, 8 morts et de nombreuses zones d'ombre qui subsistent depuis. Le président a accusé la semaine dernière un chef, ancien chef de la Marine nationale et deux autres membres de la corporation, tous les trois arrêtés par le passé par l'agence américaine anti-drogue, d'être derrière cette tentative de coup d'État avorté, comme Philippe, vous le disiez, le 1er février. Le président Oumar Sissoko Kembalo a cité devant la presse les noms de l'ancien contre-amiral Boubou Natchou, le chef de la marine pendant la première décennie des années 2000, de Tchami Yala également, ancien officier, et de Papi Djemé. Tous ont été arrêtés après les événements du 1er février, a précisé le chef d'État. Le Premier ministre Nuno Nabian a pris la parole pour la première fois cette semaine, interviewé par notre envoyé spécial d'RFI à Bissau, Lilian Erich. Il appelle à ce que la justice soit faite et à ce que les assaillants soient condamnés.
Foi ato brutal. Ninguém esperava, de facto, que isso ia acontecer. O governo
Au micro de RFI, Nuno Nabian dit autre chose.
Il dit, Nuno Nabian, le Premier ministre, il nous décrit l'épisode comme un acte brutal. Il dit que personne ne s'attendait à cela. Puis il nous explique que le gouvernement s'investit au maximum pour faire face à la crise sanitaire et aux problèmes économiques, que la Guinée-Bissau avait réussi à trouver des investisseurs dans le pays et que cette tentative de coup d'État perturbe le travail du gouvernement. Il nous dit encore que c'est une situation inexplicable et que la justice doit faire son travail. Nous n'avions rappelle que les coups d'État et rébellions sont une tradition dans le pays. Il est temps que la justice fasse son travail librement pour que les auteurs de ce coup d'État ne restent pas en toute impunité.
Et puis après 3 semaines d'absence pour soins médicaux, le chef d'état-major des forces armées de Guinée-Bissau, le général Biagé Nathan, est rentré au pays.
Oui, et à son arrivée à Bissau, il a commenté l'assaut du palais du gouvernement du 1er février lors de son absence et qualifie les personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire de récidivistes de ce genre d'agissement. Domingue Simon Praire est leader du parti d'opposition, PAIGC, appelle à ce que l'enquête sur cette affaire soit menée par une commission indépendante.
A Guiné-Bissau já passou por muitas situações de instabilidade, de atentados, aquilo que nós chamamos de inventonas.
Aidez-nous à comprendre ce que dit Domingo Simões Pereira en bon français.
Domingo Simões Pereira, en portugais, il nous dit que malheureusement la Guinée-Bissau a vécu beaucoup de situations d'instabilité, d'attentats avant cette tentative de coup d'État qu'il estime avoir été montée de toutes pièces. Il faut que les représentants du pays soient crédibles pour assurer une stabilité. Pour cela, Domingo Simões Pereira exige une commission spéciale pour éviter des conclusions qui arrangeraient les responsables politiques. Il faut suivre la règle du jeu, dit-il. Il faut créer une commission constituée de personnes capables de conduire une enquête en toute transparence.
Alors si on remonte le temps à présent, depuis 1974, il y a eu 4 coups d'État. Le dernier en 2012, dans ce petit pays d'environ 2 millions d'habitants, frontalier du Sénégal et de la Guinée.
En effet, Philippe, depuis 2014, la Guinée-Bissau s'est engagée vers un retour à l'ordre constitutionnel et pâtit d'une corruption endémique. Elle passe aussi pour une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe, un réseau qui tromperait souvent les forces armées. Depuis le début de 2020, Oumar Sissoko Embalo, un ancien général, est le chef de l'État et à la suite d'une présidentielle aux résultats toujours contestés par la formation dominante depuis l'indépendance, le PAIGC. Oumar Sissoko Embalo a forcé son destin en 2020 en mettant l'écharpe de président et en s'installant au palais présidentiel malgré toutes les contestations.
Voilà, Ligia Anjos de la rédaction lusophone de RFI. Alors que les Jeux Olympiques se terminent après-demain à Pékin, ce qui fait la une également en Chine, ce sont 3 femmes au destin totalement différent, Hermine Roumilac.
Oui, 3 femmes au destin totalement différent, mais il y a une certaine similitude quand même. D'abord, il y a Peng Shuai, cette championne du monde de tennis, dont le nom est familier maintenant depuis 3 mois. Donc, elle est sans rapport direct avec les JO, mais elle est sans aucun doute la sportive qui a attiré plus d'attention des médias, surtout des médias occidentaux, avec l'hashtag « Where is Peng Shuai ?» Où est Peng Shuai sur Twitter. Pour cause, elle avait publié un blog en novembre dernier sur son Weibo, c'est-à-dire le Twitter chinois, qui a dénoncé l'agression sexuelle qu'elle a subie par un vice-premier ministre chinois, un ex-premier ministre chinois, M. Zhang Gaoli. Donc le billet a vécu 20 minutes avant d'être censuré totalement. Peng Shuai a resté sans nouvelles ensuite pendant plusieurs semaines. Donc l'opinion publique s'inquiète qu'elle ait perdu la liberté. Les joueurs de tennis, les plus grands joueurs de tennis du monde entier, ont lancé cet hashtag pour chercher Peng Shuai. Sous les pressions, le président du CIO l'a rencontré à 2 reprises, une fois par vidéo, une fois à Pékin, en présence directe. Et il avait même un rendez-vous à Lausanne avec elle après le Covid.
Et puis elle a fait la une du journal L'Équipe, le grand journal sportif, qui a obtenu une interview exclusive d'elle.
Oui, donc ça fait la fierté de L'Équipe peut-être, mais on sait maintenant que l'interview n'a pas été faite dans une situation libre pour les deux côtés. Donc est-ce que L'Équipe a joué le rôle de idiot utile pour le gouvernement chinois, on ne sait pas. En tout cas, Peng Shuai, il est devenu le symbole de victime des abus sexuels présumés venant d'un haut dirigeant. Elle est maintenant elle est obligée de jouer le rôle de marionnette pour essayer de rattraper le coup qu'elle a fait pour salir le gouvernement chinois, on va dire.
Autre femme dans la une.
Deuxième, elle s'appelle Eliane Gu, Gu Ailing en chinois. Donc c'est une vraie star de cette Jeux Olympiques à Pékin. Elle a décroché aujourd'hui la 2e médaille d'or. Elle a eu déjà 1 médaille d'or et en argent. Donc, mais la question et les controverses sur elle augmentent aussi de jour en jour parce qu'elle a 18 ans, elle est née aux États-Unis, elle a grandi aux États-Unis, sa mère est chinoise, donc elle est très belle, elle est talentueuse, elle est championne du ski. Mais il y a 3 ans, elle a décidé de changer d'équipe, elle va participer à l'équipe chinoise pour ses JO. Donc maintenant, le problème est porté sur sa nationalité. Donc si elle est américaine, elle ne peut pas participer à l'équipe chinoise. Donc, peut-être elle a pu profiter d'un avantage, c'est-à-dire elle a gardé les 2 nationalités à l'encontre de constitution chinoise. Et donc, voilà.
Et donc, on l'écoute sur ce dossier.
Elle est très brillante dans les discours, hein, on va écouter. Elle dit pas clairement si elle est chinoise ou elle est américaine. Elle a dit quand je suis aux États-Unis, je suis américaine. Quand je suis en Chine, je suis chinoise. Donc après, elle dit elle joue le rôle qui fait lier les deux pays qui sont pas en bonne relation. Et elle fait donc pour elle, ce n'est pas un problème. Donc si les gens sont contents, ils sont contents. Ils sont pas contents, tant pis pour les autres.
Voilà. Hermine Roumilhac de la rédaction chinoise de RFI dans Accent du Monde. Accent du Monde. Réalisé par Jean-Philippe Thury. L'atelier des